Pour introduire le sujet du Dvar Malchut sur la paracha Baalotecha qu'on va lire Chutz Laaretz ce Shabbat avec les deux dieux, alors qu'en Israël on lira la paracha Tchlach, mais on va s'attarder sur l'enseignement du Rabbi sur du Dvar Malchut, sur cette paracha Baalotecha. Donc pour introduire son enseignement, ça serait bien de citer un passage de l'enseignement de la Chassidut d'après le Rabbi Rayatz, tiré de l'ouvrage La Chassidut, étude et enseignement, des éditions du Beit Lubavitch. À la page 21, il est écrit que par l'intermédiaire de la Chassidut, Rabbi Shneur Zalman, il a frayé le chemin à quiconque désire s'approcher de la sainteté et servir Dieu par son cerveau et par son cœur. Donc servir Dieu par son cerveau et par son cœur, c'est vraiment le Chabad, Chokhma Bina Da'at. Commencer par servir Dieu en ayant tout d'abord une perception au moyen de l'intellect, au moyen du cerveau. Donc, se mettre effectivement au service de Dieu en le craignant dans tous les actes de ce service et dans l'accomplissement des commandements, en adoptant un comportement positif envers les autres. Tout ceci peut être obtenu en percevant la divinité par la chair physique de son cerveau. Donc là aussi, ce point est intéressant. On pourrait l'accorder à la déclaration de l'Éternel lui-même lorsqu'il dit qu'il a écrit son essence et qu'il l'a donnée. De la même façon que Dieu il va introduire la sainteté dans l'écriture même, au moyen de l'encre et du parchemin qu'on écrit, c'est la parole de Dieu, c'est l'esprit, c'est l'essence divine qui s'inscrit sur le parchemin. Et c'est ça que l'Éternel signifie quand il nous dit qu'il a écrit son essence et qu'il nous l'a donné. De la même façon, on va percevoir quelque chose de divin et d'abstrait au moyen de la matière physique, par la chair physique, pour reprendre l'expression du Rabbi Rayatz, percevoir la divinité par la chair physique de son cerveau. Donc, lors d'une réunion qui regroupa quelques-uns des premiers chassidim à l'occasion de la célébration de la bar mitzvah de Rabbi Dovber, le fils de Rabbi Shneur Zalman, la venue du Mashiach et la résurrection des morts furent évoquées. L'un des grands chassidim affirma alors que le Rabbi faisait revivre les morts, expliquant qu'un mort est froid sans réaction. En effet, le mouvement et le sentiment sont des marques de vitalité. Or, poursuivit ce chassid, le cerveau est effectivement froid et sans réaction. En conséquence, lorsqu'il comprend la divinité et s'en émeut, n'y a-t-il pas en cela la résurrection d'un mort ? C'est ça le point qui est apporté ici par le chassid, de comprendre que le rabbi fait revivre les morts, ça signifie qu'il fait revivre le cerveau, qui donne à notre perception qui est froide, d'un enseignement de la Torah, si c'est uniquement réalisé au moyen du cerveau qui est lui-même froid, alors la chose reste froide en nous. Et comme le rabbi Rayatz l'a expliqué, il dit qu'une personne qui est grossière, même sa Torah est grossière. De la même façon, si on perçoit des enseignements de la Torah sans ressentir de la chaleur dans le cœur, alors notre service divin, il est lui-même froid. Et nos actions sont elles-mêmes froides. Notre accomplissement des commandements divins, il doit être enflammé. On doit être à l'image de ces flammes que Aaron il va allumer quand il allume la menorah. Et ces flammes, elles doivent monter d'elles-mêmes. Ça signifie qu'un juif, il doit monter de par lui-même. Son âme, elle doit s'élever. C'est-à-dire qu'il perçoit d'abord un enseignement. Et grâce au rabbi, il va percevoir la chaleur de cet enseignement, le feu divin qui est à l'intérieur de cet enseignement. Il va éveiller dans le cœur, son cerveau va éveiller dans son cœur un sentiment qui est divin. Et ce sentiment qui est divin, il va pénétrer ensuite dans ses actes. Donc c'est ça le but. Toute la réalisation des commandements divins doit être accomplie de manière à ce qu'un juif, il étudie la chassidoute, de manière à ce que ces enseignements-là, ils soient réellement gravés avec des lettres de feu dans son cœur et s'expriment par des actes divins, des actes de feu. Il doit accomplir les commandements divins comme un feu qui brûle. C'est pour cela que le rabbi explique que la chassidoute introduit lumière et clarté en toute chose. Elle souligne que toute créature, qu'elle soit végétale ou minérale, animale ou humaine, doit être considérée à travers la parole de Dieu qui l'anime, la conduit à l'existence, la fait vivre et se perpétuer. Donc ça c'est très beau aussi, puisqu'on doit considérer chaque détail de l'existence comme à travers la parole de Dieu qui l'anime. qui l'a conduit à l'existence, qui l'a fait vivre, qui l'a fait se perpétuer. Donc on voit la parole de Dieu, de ma chair je verrai Dieu, c'est-à-dire de mon corps, de la chair physique de mon cerveau, je vais percevoir le feu divin, le feu de l'essence divine que l'on doit imprimer dans ce monde matériel, à commencer par imprimer dans notre cœur et dans nos actes. 100 ans se sont écoulés depuis le saint échange qu'il y eut une fois entre Rabbi Schneur Zalman et Rabbi Dovber à propos de l'effort de la prière. Ça, c'est le soir de la fête de Soukhot, c'est le Rabbi Rachab qui a dit ça. Le Rabbi Rachab, il va rapporter un échange saint entre l'amour à Zakan et son fils. Alors, en effet, le Tzemar Tzedek raconta à mon père, c'est-à-dire le Rabbi Maharash, c'est le Rabbi Rachab qui parle, qu'au cours du repas du second soir de la fête de Soukhot, En 5560, en 1799, Rabbi Schneur Zalman y demanda à Rabbi Dovber: quel fut le thème de ta méditation pendant la prière de Rosh Hashanah? Le père demande à son fils: à quoi tu as pensé pendant la prière de Rosh Hashanah? Son fils lui répond: j'ai médité à la phrase: toute haute stature se prosterne devant toi. J'ai réfléchi à la soumission du stade premier de la création devant la divinité. Ça signifie quoi en clair? Ce que l'Amorim Saï demande, il répond à son père, il lui dit que Dieu, il a créé les mondes à partir de sa parole. C'est la parole de Dieu qui crée et maintient en vie tous les mondes. C'est la bouche de l'Éternel. C'est le souffle qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est la séphira de Malchut du monde Atzilut qui représente la bouche de l'Éternel. C'est par ce souffle-là que les mondes sont créés. Mais ces mondes-là, ils trouvent leur origine dans la pensée de Dieu. La pensée première de Dieu, quand Dieu il a pensé à la création, c'est ce qu'on appelle Adam Kadmon, c'est dans cette pensée première se trouve toute la création, même ce moment-là, au moment où je suis en train de parler dans un dictaphone, ce moment-là, il fait aussi partie de la pensée première de Dieu. Tout ce qui se réalise dans le monde, c'est fait partie de la pensée première de Dieu. Et l'Amorim Saï, le soir donc de la fête de Rosh Hashanah, il a pensé que même cette pensée-là, la pensée première de Dieu, elle est rien en comparaison à son essence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu, la pensée de Dieu ne sont rien en comparaison à l'essence de Dieu. De la même façon, on voit que le nom de Dieu, Yud-Ké, Vav-Ké, ça représente le Chesed de Dieu. Le Chesed de Dieu, il est rien en comparaison à Anochi, l'essence divine. Ce mot Anochi, qui est un mot égyptien, il exprime l'essence divine. L'essence divine, elle est bien au-delà de tous les détails. Elle est même au-delà du Shem Yud-Ké, Vav-Ké, du Shem Amonai, du Shem Kel, de tous les noms de Dieu, parce que chaque nom, il exprime un détail en particulier. Mais l'essence divine, elle est au-delà de toute forme, au-delà de tout détail, c'est l'essence divine. Ça, c'est la réponse de l'Admor Emsaï à son père, l'Admor Azaken. Maintenant, le fils il demande à son père, il demande à l'Admor Azaken: et toi, à quoi as-tu médité? Quelle fut ta propre méditation? Et le rabbi lui répondit: moi, j'ai prié avec mon pupitre, j'ai médité au fait que la matière physique fut créée par l'essence de Dieu. Alors là, on pourrait dire que même la réponse de l'Amor Hazaken s'accorde avec celle de l'Amor Emsaï. Seulement, l'Amor Emsaï, il parle, il dit que la pensée de Dieu, elle est rien en comparaison à son essence. Et l'Amor Hazaken, il descend encore plus bas, dans les niveaux les plus bas, et il vient parler de la matière physique. La matière physique de son pupitre devant lequel il se tenait pendant la prière, son standard en bois, il regardait son standard, il regardait le bois du pupitre, et il pensait que ce bois-là, la matière physique, elle fut créée par l'essence de Dieu. Alors on peut se demander, évidemment on voit le rapport qui existe entre les choses, on voit que l'Admor Emsaï et l'Admor Hazaken, ils ont tous deux pensé à la soumission, de le fait que le monde n'est rien en comparaison à l'essence de Dieu, et on voit la différence entre les deux, c'est que l'Admor Hazaken, il parle carrément de la matière physique, il ne parle pas de la pensée première, il ne parle pas des mondes supérieurs, mais il parle de la matière qui fait partie du monde le plus inférieur justement. On peut se demander pour quelle raison. Maintenant, le Rabbi Rayatz, il tire de cette histoire-là l'enseignement suivant. Il nous dit, en d'autres termes, c'est bien l'effort de la prière qui introduit la compréhension intellectuelle dans l'émotion sentimentale. Et ces deux qualités s'unissent pour donner forme à une action concrète, à l'accomplissement des commandements, en se pénétrant dans la crainte de Dieu, à l'acquisition de bons comportements. Le point qui est rapporté ici par le Rabbi Rayatz, c'est qu'on doit faire des efforts dans la prière, de manière à ce que quelque chose, un concept divin qui naît dans le cerveau, il soit ensuite conduit dans le cœur. il soit ressenti dans le cœur, et ensuite, il a pour finalité, toute grande délitude qui mène à l'action, ce sentiment-là, il doit s'imprimer dans un acte, il doit se cristalliser dans un acte, dans notre accomplissement des commandements divins. Quel est le rapport avec l'histoire, qu'on vient de dire, aussi de la Mourazaken? Alors, on pourrait donner la réponse suivante. On pourrait dire que la Mourazaken, il a médité au fait que la matière physique, elle vient de l'essence de Dieu. Et on sait que Rashi, il a enseigné que la majorité des commandements divins est accomplie précisément au moyen de la matière de ce monde. Donc, quand on a conscience que la matière physique de ce monde, elle provient de l'essence divine, à ce moment-là, quand on accomplit la majorité des mitzvot au moyen de la matière, et qu'on sait en même temps que cette matière-là, elle provient de l'essence divine, alors on va avoir un sentiment dans le cœur, on va sentir quelque chose de différent, une vitalité nouvelle, elle va nous animer à ce moment-là, et c'est ça que l'idée que la flamme doit monter d'elle-même. C'est-à-dire qu'on doit vraiment réaliser notre service divin, de manière à ce que la flamme monte d'elle-même, qu'elle monte d'elle-même vers où ? Vers l'essence divine, justement. Elle doit nous ramener à ce point-là, c'était un des enseignements du Rabbi dans le Dvar Malchut, de revenir à Echad, de revenir à l'unique de ce monde, de revenir à l'essence divine. Et ça, c'est précisément le sujet du Dvar Malchut, de la Parasha Baalotecha. Dans le Dvar Malchut, le Rabbi va expliquer que les sages de la Guémara ont dit qu'on pouvait diviser le livre de Bamidbar en trois. C'est-à-dire que dans la Parasha Baalotecha, le passage Vayi Minsoa Aaron qui parle du peuple juif qui accompagne, plutôt l'arche qui accompagne le peuple juif dans le désert, c'est uniquement deux versets, et pourtant ces deux versets-là représentent un seul livre. Un seul livre. Donc ce qui vient avant ce verset dans le livre de Bamidbar, c'est aussi un livre. Ces deux versets représentent eux-mêmes un livre, et à la suite de ce verset jusqu'à la fin du livre de Bamidbar, c'est aussi un livre, donc on divise le livre de Bamidbar en trois livres. Donc si on considère que le livre de Bamidbar, il comprend en lui-même trois livres, alors on n'a plus cinq livres de la Torah, mais on en a sept. Donc les livres de la Torah peuvent être comptés aussi au nombre de sept. Donc le Rabbi va nous expliquer la différence entre le chiffre 5 et le chiffre 7. Le chiffre 7, évidemment, il évoque la menorah. Et on voit que la Parasha Baalotecha, qui est au centre même de ce livre de Bamidbar, et qui divise les livres de la Torah en 7, donc on voit que ces sept livres de la Torah, ils sont comparables aux 7 lumières de la menorah. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie, le chiffre 7? Alors, dans l'enchaînement des mondes, dans les séphirot, le Rabbi nous explique qu'il y a cinq séphirot qui sont essentielles. C'est le Icar, l'essentiel des séphirot. Ça commence avec Chesed, Vura, Tiferet, Netzar et Od. Ces cinq séphirot-là représentent les mondes supérieurs, finalement. Alors que les deux dernières séphirot, Isod et Malchut, elles sont tournées vers les mondes inférieurs. Puisque, comme on a dit, la séphira de Malchut, elle représente le souffle divin qui descend dans la création pour créer les mondes de Bria, de Yetzira et d'Assia, pour les créer et puis créer toutes les créatures qui vivent dans ces mondes-là et pour les maintenir en vie. Donc ces deux séphirot de Isod et Malchut, elles représentent donc la descente de la lumière divine vers les mondes inférieurs, alors que les cinq séphirot supérieures, elles représentent, comme son nom l'indique, les mondes supérieurs. Donc le chiffre 5, il est lié avec ce qui est divin, et le chiffre 7, il inclut la descente vers les mondes inférieurs. Et on pourrait donner un enseignement du Rabbi Rachab ici. Quand le Rabbi Rachab, il a expliqué que le souffle de Dieu, le souffle qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est-à-dire la lumière divine qui émane de la séphira de Malchut, elle répugne à descendre dans les mondes inférieurs, parce que dans les mondes inférieurs, le choix est donné à l'homme entre le bien et le mal. Donc le souffle de Dieu, il craint d'être employé et dirigé vers le mal, ce qu'à Dieu ne plaise. Le souffle divin, il préfère retourner à sa source en Dieu, comme une flamme qui s'élève vers le haut et qui va retourner à sa source. Le souffle divin, la lumière qui vient de Malchut, elle répugne à descendre dans les mondes inférieurs. Donc cette idée-là de descente de la lumière vers les mondes inférieurs, elle existe aussi chez l'homme lui-même. Parce qu'on voit aussi que le Rabbi explique que le chiffre 5, il dit donc comme exemple Rabbi Yochanan ben Zakkai, où il explique que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves, comme ça c'est écrit dans le Pirkei Avot. Il dit comment il avait que 5 élèves. En fait, l'idée qui est donnée ici, c'est que le chiffre 5 qui représente les tzadikim. Donc les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était tous des tzadikim. Donc c'est le chiffre 5. Alors que le chiffre 7, lui, il inclut tout le peuple d'Israël. Et l'exemple qui est donné, c'est celui d'Aaron. Pourquoi Aaron, il allume les 7 branches, les 7 lumières de la menorah? C'est parce que justement, lui, il est capable d'aimer les juifs qui ne sont pas des tzadikim. Il est capable d'aimer chaque membre de la Knesset d'Israël, de l'Assemblée d'Israël. Il est capable d'aller chercher le juif le plus inférieur, si on peut dire, le moins érudit, celui qui est vraiment totalement étranger à la Torah et aux mitzvot, et celui-là précisément, il va l'aimer. Donc c'est ça l'idée, que Aaron il allume les 7 bougies, les 7 lumières de la menorah. Donc le chiffre 7, il représente ici toute l'assemblée d'Israël. Et de la même façon, on voit dans les livres de la Torah, les 5 premiers livres de la Torah sont liés avec tout ce qui est divin, et les 2 derniers livres de la Torah, puisqu'on divise aussi les livres de la Torah en 7, ils représentent tous les aspects négatifs de la Torah. Comme par exemple, on dit que le juste après les 2 versets de Vayi Binso Aaron, on a dit c'est le dernier livre de la Torah. Il commence par quelque chose de négatif, puisqu'on parle de, on dit qu'il est écrit là-bas que les Juifs ils cherchèrent de mauvais prétextes. Le peuple juif chercha de mauvais prétextes. Et le Rabbi vient expliquer que quand il est dit le peuple et non pas mon peuple, le peuple, ça fait référence au Réchaïm. Alors que quand Dieu, il dit mon peuple, alors il est fier de son peuple. Et là, on fait des louanges du peuple d'Israël. Mais là, il est simplement dit le peuple, chercha de mauvais prétextes. Donc, c'est un aspect négatif. Mais le Rabbi vient de dire que même ce qui est négatif, ça peut être élevé à un niveau supérieur. Et c'est, on le voit même ici dans la parasha de Shlach. Le fait que Moshe, il a envoyé les explorateurs, ça a une connotation négative. Les explications qu'on donne, on dit que c'était négatif. C'est pas quelque chose de positif, cette histoire avec les explorateurs. Cependant, le Rabbi vient nous dire que c'est grâce à la mission des explorateurs de Moshe que les explorateurs de Yeshua, ils vont conquérir la terre d'Israël par la suite. Donc on voit que quelque chose qui est au départ négatif, ça a une connotation positive, mais qui demeure cachée. Et de là, le Rabbi vient nous dire que le chiffre 7, il indique cette idée-là, que c'est précisément en élevant les endroits les plus inférieurs qu'on parvient à ce que la flamme, elle monte d'elle-même. Donc comme on l'a vu dans les Séphirot, comme on l'a vu aussi dans les livres de la Torah, et comme on la voit aussi dans l'Assemblée d'Israël, on voit que le chiffre 5, il représente ce qui est divin, véritablement. Et le chiffre 7, il représente ce travail qu'on doit accomplir, cette descente vers les mondes inférieurs, cette descente dans les endroits reculés pour aller chercher un juif qui ne sait pas qu'il lui manque quelque chose, et pour précisément élever ce juif et le conduire dans la Torah et dans les mitzvot de manière à ce que ce soit comme une flamme qui monte d'elle-même. Alors cette idée-là de la flamme qui monte d'elle-même, on doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la Torah, au niveau des mitzvot. Alors dans la Torah, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quand quelqu'un il étudie la Torah et qu'il étudie de manière profonde, quand est-ce qu'on peut dire que la flamme elle monte d'elle-même? C'est à partir du moment où il va graver ses paroles dans son cœur. Ça veut dire qu'il va les savoir par cœur, qu'il va les savoir, ça va devenir une partie de lui-même. À partir du moment où la Torah devient une partie de lui-même, à partir du moment où elle est indissociable de lui-même, comme les lettres qu'on grave dans la pierre, elles font un avec la pierre, c'est un exemple qui est souvent exprimé par le Rabbi. De la même façon, la Torah doit être gravée en nous, et quand elle est gravée en nous, elle fait un avec nous-mêmes, alors on devient comme une flamme qui monte d'elle-même. Ça, cet exemple-là, on peut aussi le rapporter à celui du Rav et du Talmid. Quand est-ce que le Talmid, l'élève, il monte de lui-même? C'est quand il devient lui-même indépendant. C'est quand il a même plus besoin du Rav, parce que le Rav lui a donné les moyens d'étudier la Torah, de savoir se débrouiller seul, de savoir avancer seul. Il connaît la Torah, il connaît les moyens d'acquérir la Torah. À ce moment-là, il est comme une flamme qui monte d'elle-même. On peut donner aussi l'exemple de la tzedaka. C'est un bon exemple quand on dit que le plus haut niveau de la tzedaka, c'est pas de donner de l'argent à quelqu'un, mais c'est de lui apprendre à gagner de l'argent tout seul, de par lui-même, comme une flamme qui monte d'elle-même. Donc tous ces exemples-là, ils sont donnés par le Rabbi, et le Rabbi, il les exprime en un seul exemple, c'est celui du don de la Torah. Dieu, il est comparable au Rav, et l'Assemblée d'Israël est comparable à un Talmid, à un élève. On voit très bien que quand Dieu il a donné la Torah au peuple d'Israël, c'est pour que la flamme monte d'elle-même. À partir de quand on voit que la flamme monte d'elle-même, c'est à partir du moment où on voit que c'est l'Assemblée d'Israël, quand elle a un problème, elle doit faire face à un problème, elle doit répondre à un sujet halakhique, elle ne doit pas demander à Dieu, elle doit trouver de par elle-même la solution. On doit aller voir un rave, on doit lui demander quelle est la halakha, on va voir un mashpia, on lui demande conseil pour, dans notre propre existence. Donc on voit que la Torah nous a été donnée, mais Dieu nous a aussi donné les moyens de répondre à nos questions, répondre aux questions qui peuvent se poser. À partir du moment, c'est pour ça qu'on dit même que la Torah, elle n'est pas dans le ciel. C'est-à-dire pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est ici sur terre, et on doit la faire vivre sur terre, on doit la réaliser sur terre avec nos propres moyens, comme une flamme qui monte d'elle-même. Dans les mitzvot, c'est la même chose. On doit accomplir les commandements divins de manière à ce que nos actes ils deviennent notre seconde nature. C'est-à-dire qu'on doit s'habituer au divin, on doit s'habituer à accomplir les commandements divins de telle manière que ça finit par devenir une habitude et que cette habitude finit par devenir notre seconde nature. Donc l'exemple qui est donné ici, c'est celui du modim des Rabbanan, au moment de la prière, de la Amida, quand on se courbe devant Dieu, et qu'on dit, quand on se la chante Oda, quand on reconnaît, qu'on se soumet à Dieu, alors on s'incline, on se courbe devant Dieu. Et là, les sages ont dit que dès qu'on s'approche de ce moment-là de la prière, alors le corps de lui-même, il va s'incliner, sans même qu'on y pense, parce qu'il est habitué à se courber comme ça devant Dieu. Alors le Rabbi, il vient nous dire, c'est de cette manière qu'on doit faire les mitzvot. On doit les faire que de manière à s'habituer à la chose, que ça devienne une chose qui devient naturelle. Et non pas machinalement. C'est pas que je me courbe machinalement. C'est pas que je fais les choses sans réfléchir. Non, je garde toujours l'intention, mais je le fais, c'est devenu ma seconde nature. Un niveau supérieur à celui-là, dans l'accomplissement des mitzvot, c'est que le Rabbi nous dit que si on doit s'habituer à accomplir les commandements divins, c'est bien. On est parvenu à ce que notre habitude, c'est devenu une seconde nature. Nos habitudes deviennent une seconde nature. Mais le rabbi pose la question, si on est obligé de s'habituer, ça veut dire que la chose, elle est pas vraie, c'est pas réellement nous-mêmes. On s'habitue à être quelqu'un d'autre, on s'habitue à accomplir la volonté de Dieu, mais elle nous est malgré tout étrangère, puisqu'on doit s'habituer à elle. Alors le rabbi vient nous dire que ça, c'est un niveau, c'est déjà un niveau, le fait de s'habituer à ce que la chose, ça devient une seconde nature. Mais un niveau supérieur, c'est de dévoiler qu'en réalité, c'est notre véritable nature. Alors comment expliquer cette idée-là, et comment on pourrait peut-être finir là-dessus? C'est la différence qui existe entre le Benoni et le Tzadik. Le Benoni, il est obligé de repousser le mal en permanence, alors que le Tzadik, lui-même, le mal n'existe pas en lui. Le Benoni, en fait, la différence entre le Benoni et le Tzadik, c'est que le Benoni, il n'est pas parvenu à changer l'essence de son âme animale. L'essence de son âme animale, elle reste identique à elle-même. C'est-à-dire qu'elle est toujours portée, elle incite toujours l'homme à accomplir des désirs qui sont grossiers. Mais le Tzadik, il est parvenu à changer l'essence même de son âme animale. Il est parvenu à la transformer véritablement. Donc, quand on parvient à transformer l'essence de l'âme animale, alors on est débarrassé totalement du mal. C'est la différence entre les deux. Quand l'essence, la flamme qui monte d'elle-même chez le Benoni, c'est le fait que l'habitude devient une seconde nature. La flamme qui monte d'elle-même chez le Tzadik, c'est le fait de briller tout le temps, d'être animé par un amour pour Dieu qui est totalement pur, quand on est débarrassé totalement de tout ce qui est superflu. Le point peut-être le plus essentiel de tout ce Dvar Malchut, c'est quand le Rabbi nous dit que la flamme qui monte d'elle-même, comment ça s'exprime avec le plus de force, c'est précisément quand on s'attache aux niveaux les plus bas. C'est-à-dire que quand on s'attache aux niveaux les plus inférieurs, quand on s'acharne à aimer le juif qui est le plus à l'extérieur du Hémet, et qu'on s'acharne à le rapprocher du Hémet, à lui donner le goût, quand on allume son âme de manière à ce que ça devienne une flamme qui monte d'elle-même, alors on élève toute l'assemblée d'Israël. C'est en s'attachant aux niveaux les plus bas qu'on parvient à ce que la flamme monte d'elle-même. C'est pour ça que le Rabbi décrit notre génération comme le talon. Le talon, c'est la dernière génération, c'est une des générations qui est très basse spirituellement, selon les mots du Rabbi, mais malgré tout, ce talon-là, il soutient le corps tout entier. C'est-à-dire que si on parvient à élever ce talon-là, la partie la plus inférieure, c'est-à-dire la génération la plus basse, malgré tout, cette génération-là, elle soutient toutes les autres générations, puisque c'est le talon, et on peut dire que la génération de Moshe, elle est comparée à la tête. Il dit, mais si on élève le talon, on élève aussi la tête. Donc si on s'attache à élever les niveaux les plus bas, alors on parvient à la Géoula, vraiment à la Géoula. L'idée finale qu'on pourrait donner ici, c'est vraiment l'idée du Tanya. Dans le 53e chapitre du Tanya, l'Admor HaZaken, il parle de Hinouka, l'exemple de Hinouka. Il explique que la mèche d'une bougie, c'est l'âme animale. la flamme de la bougie, c'est la shrina. Et pourquoi la shrina, elle va s'accrocher à la mèche? C'est précisément parce que la mèche, elle est dans de l'huile. Et l'huile, elle représente nos actions, les commandements divins. C'est par les commandements divins, donc qui sont réalisés, comme on l'a dit au départ, par la matière de ce monde, que la shrina, elle peut descendre. Donc encore une fois, c'est en s'attachant au niveau les plus bas qu'on peut attirer la shrina. Donc l'exemple qui est donné par la Nourazaken, c'est celui des bonnes actions, ça représente l'huile. La mèche a besoin d'huile pour que le feu puisse s'accrocher à la mèche. Mais on pourrait dire aussi que l'huile, c'est la chassidoute, et que par la chassidoute, justement, la shrina, c'est ce qui permet à la shrina de descendre et de se révéler dans le monde. Et c'est pour ça qu'on pourrait finir sur ce point-là, sur l'importance d'étudier la chassidoute, parce qu'elle est véritablement l'huile qui a le pouvoir de descendre dans les matières les plus basses, dans la matière les plus profondes. Et le Rabbi, le Rayat, il a expliqué la matière physique du cerveau. La Nourazaken, il parle de la matière du bois de son pupitre. On voit l'importance de la matière, on voit l'importance de s'attacher au niveau les plus bas, puisque la matière elle-même, elle provient de l'essence divine. C'est précisément, même le corps lui-même, il provient de l'essence divine, et Dieu, il a choisi le corps d'un juif, donc on doit s'attacher à purifier le corps, justement pour que la shrina, elle puisse descendre dans ce monde. On doit faire de ce monde une demeure pour Dieu, ça signifie véritablement s'attacher aux niveaux les plus inférieurs, et c'est en élevant les niveaux les plus inférieurs qu'on parviendra à allumer le monde. Le monde, il est comparable aussi à une bougie, et qu'une bougie qu'on doit allumer, puisque le Rabbi, il explique dans le Devar Malchut que chaque objet matériel, on doit allumer chaque objet matériel, c'est-à-dire qu'on doit introduire la sainteté dans chaque objet matériel. À partir du moment où on écrit une mezouza, alors on fait rentrer la sainteté dans cette mezouza, et ça devient un objet matériel qui est comme une flamme qui monte d'elle-même. Pourquoi? Parce que l'objet, il a plus besoin de nous. À partir du moment où on a introduit la Kedusha dans un objet, qu'on a fait d'un objet profane un objet de sainteté, à ce moment-là, c'est comme une flamme qui monte d'elle-même. On peut se retirer puisque la Kedusha, elle va être présente dans cet objet. Même si on n'est plus à côté de cet objet, on a réussi à l'introduire dans cet objet. Donc, on voit que ce monde matériel, il doit être allumé. On doit faire de ce monde une demeure pour Dieu. Ça signifie qu'on doit introduire la sainteté dans ce monde, dans la matière de ce monde, dans les niveaux les plus bas de ce monde, de manière à ce que le monde entier monte par lui-même au moment de la Géoula, au moment de la venue du Machar, Bizrat Hashem Bekarov, Mamash.